Le voile du sanctuaire. Donc nous allons commencer cet enseignement par Exode. Exode 26, de 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile est la séparation du lieu saint de lieu très saint. Les deux frères, Moïse et Aaron, étaient les serviteurs de l'Éternel dans ce temple mobile qui marchait au milieu des enfants d'Israël, dont les deux lieux étaient séparés par un voile ou rideau qui empêchait les enfants d'Israël de voir derrière le voile ou le rideau où se tenait l'Esprit de Dieu. Toutes les dîmes, les holocaustes, les offrandes étaient déposés dans le lieu saint, c'est dire devant le rideau de séparation, le voile. Seul le Moïse en tant que médiateur et Aaron son frère, le souverain sacrificateur, eux seuls pouvaient voir ce qui était derrière le rideau de séparation où se tient l'Esprit de Dieu. Exode 19, versets de 9 à 12, et de 16 à 25. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple. » Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, « Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. » Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Vous voyez, les enfants d'Israël demandaient de ne pas voir, ni entendre la voix de l'Éternel. Prenons Exode 20, de 18 à 23. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne vous en ferez point. » Seul Moïse pouvait s'approcher de l'Éternel. Exode 20, versets 1 et 2 et versets de 15 à 18. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. À chaque fois que Moïse descendait de la montagne, Moïse était voilé, et cela empêchait les enfants d'Israël de voir au-delà de ce voile, donc de ne pas voir la vérité qui était derrière ce voile. 2 Corinthiens 3, de 13 à 15. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et le verset 15 nous dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Donc aujourd'hui, les chrétiens croyants qui se réfèrent par la prédication de la loi de Moïse et ses rites et traditions et la pratique de ses ordonnances, ces chrétiens croyants sont privés de voir la vérité qui est derrière le voile, qui est dans le sanctuaire où se tient l'Esprit de Dieu. Car ce voile les empêche de contempler le véritable, la gloire de Dieu, la vérité qui les rendra libres. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ces chrétiens qui s'attachent à cette loi et ses rites et la pratique de ses ordonnances sont encore esclaves de cette loi et ses ordonnances. Eux qui les enseignent la mise en pratique de ces ordonnances qui les conduisent à la mort. Car cette loi, n'oublions pas, c'est la loi de la condamnation, de la culpabilité, du péché et de la mort. Matthieu 23, 13 et 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Mais Jésus-Christ, auteur de la nouvelle alliance, est venu, non pour abolir cette loi, mais pour libérer l'homme de cette loi du péché de la mort, la loi de la condamnation et de la culpabilité. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Colossiens 2, 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Romains 8, de 1 à 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Par son sacrifice et son offrande unique, le Christ Jésus accomplit tout ce qui était fait dans le lieu saint. Par le même sacrifice et offrande, Jésus-Christ déchira le rideau de séparation, donc le voile, qui empêchait aux enfants d'Israël de contempler le véritable, donc connaître la vérité. Matthieu 27, de 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Une fois le voile déchiré, c'est la fin de la servitude, fin de la première alliance, dite ancienne alliance, et l'entrée dans la nouvelle alliance. Les yeux du croyant chrétien en Christ Jésus pouvaient voir, c'est-à-dire contempler l'avènement de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, de 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Beaucoup de ceux qui se disent serviteurs n'ont pas été appelés et choisis, et n'ont pas été rendus capables pour témoigner et enseigner la contemplation de la gloire de Dieu, car ils sont encore voilés eux-mêmes, et ne pouvant pas voir la gloire de Dieu, car leurs yeux étant voilés, ne peuvent prêcher par l'Esprit de Dieu qui est dans le sanctuaire, car ils continuent à exercer le ministère de Moïse, le visage couvert par le voile. Donc, ces serviteurs qui n'ont pas été envoyés par l'auteur de la nouvelle alliance ne prêchent pas la vérité de Dieu, mais ils entraînent les auditeurs à la mort. Car, rappelons-le, la loi de Moïse est la loi du péché et de la mort. C'est donc par la lettre que ses serviteurs enseignent. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les auditeurs, par cette prédication, deviennent de plus en plus incrédules et rebelles à la loi de l'esprit, qui est la loi d'amour, de la vie, donc la parole de Dieu véritable. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, nous dit Jean 6, 63. Ces chrétiens ignorants et aveugles disent comme les enfants d'Israël, quand on leur dit la vérité. Exode 14, 11 et 12. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Comme les enfants d'Israël, ces chrétiens n'aiment pas la liberté de Dieu par le Christ Jésus. Ils aiment la servitude de la loi de Moïse et la pratique de ses rites traditionnels et ses ordonnances. Et pourtant, le Seigneur a dit ceci dans, prenons Matthieu 15, de 2 à 9, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite ! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dieu a changé l'alliance. Jérémie 31, 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8, de 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux 10, de 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Beaucoup de chrétiens, quand on leur parle de ce changement, bien souvent la réponse qu'ils donnent, Dieu ne change pas. Mais ici on ne parle pas de changement de Dieu. On parle de changement de l'alliance. Dieu ne change pas sa nature de Dieu, qui est saint, mais Dieu est libre de faire ce qu'il lui plaît. Jérémie 18, de 1 à 6, et aussi le verset 9. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Verset 9. Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Romains 9, de 20 à 23. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? » Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Ésaïe 29, 16. Quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile ? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait ? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence ? Satan, comme avec Adam et Ève, il les poussa à désobéir et à se révolter contre Dieu, sous prétexte que Dieu a dit que vous serez comme lui. Donc en mangeant ses fruits, vous serez comme lui. Alors Satan les a poussés à manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dieu est maître, c'est lui qui donne les ordres. Il ne reçoit pas les ordres. Dieu a changé l'alliance, donc la première, et il a établi une nouvelle alliance. Voyons, si nous prenons comme exemple un père qui donne l'ordre à son fils de ne pas rentrer après 20 heures et que l'enfant n'obéit pas, le père va ordonner à son fils rebelle de ne plus sortir si tard, mais de rentrer avant 18 heures. Est-ce que le père a changé d'être père? Non, il reste père, mais il a changé son règlement vis-à-vis de son enfant. Dieu avait prévenu à Moïse. Deutéronome 18, versets de 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceux qui n'écoutent pas celui qui a prêté le serment devant son Dieu, son Père, car Moïse ne s'était pas engagé par serment, ni son frère Aaron. Hébreux 7, de 21 à 22. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Mais le Christ de Dieu a prêté serment de ne rien faire d'autre que la volonté de son Père. Hébreux 10, de 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous dit Jean 4, verset 34. Les incrédules, les rebelles doivent se rassurer que les comptes leur seront demandés. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et réécoutons pour terminer cet enseignement Deutéronome 18, de 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » À méditer si vous le désirez. Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, cela veut dire que Dieu a besoin d'un homme pour se voir, visage de Moïse. Exode 34-35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, nous dit 2 Corinthiens 3:7. Voilà, frères et sœurs, ces trois passages à méditer. Exode 25-22, Exode 34-35 et 2 Corinthiens 3:7. Voilà, frères et sœurs, pour cet enseignement, gloire à Dieu. À lui revient toute la gloire.